Politique de la ville, première programmation 2016 du contrat de ville, Madame Saadi.
La délibération du jour relative à la politique de la ville concerne la première programmation des projets qui ont été retenus par une commission multipartenariale mise en place dans le cadre du contrat de ville. La logique de cloisonnement entre les actions de la ville, de l'agglo, de l'État n'est plus de mise aujourd'hui. 70 projets sont retenus pour un montant de 746 637 euros pour cette première programmation. Une seconde est prévue au Conseil municipal de juillet, avec notamment des projets supplémentaires dans le domaine de l'emploi et du développement économique. Les projets font l'objet de cofinancement de la part des signataires du contrat. Les trois principes structurent les choix présentés. Le premier, c'est le développement de la présence humaine dans les quartiers, en renforçant les équipes de médiation de proximité, en enrichissant le fonctionnement de l'école des sports, en favorisant l'implication des jeunes engagés au titre du service civique. Deuxième point, c'est l'accès aux droits, aux services publics, à l'autonomie des habitants, des quartiers prioritaires, en maillant les quartiers de permanence d'écrivains publics, en faisant des actions de sensibilisation et d'accompagnement à l'apprentissage du français pour les adultes, et d'actions de sensibilisation à la parentalité et à la santé. Le troisième axe, c'est le développement économique des quartiers avec des programmes d'appui à la création d'activités et d'accompagnement des publics à l'emploi ou à la formation. Sur chaque territoire, l'équipe politique de la ville anime des collectifs interacteurs, ça gêne certains, afin de travailler sur les enjeux de chaque secteur et d'imaginer de nouveaux projets pour y répondre. Cette dynamique amplifiée depuis l'année dernière répond plus ou moins bien en fonction de la présence associative locale, du dynamisme des associations structurantes, centres sociaux et MJC et de l'habitude ou non de travailler en partenariat. Les collectifs de Bellecroix et Metz-Nord ont permis de relancer une dynamique territoriale qui petit à petit porte ses fruits. Sur le quartier de Borny, des associations se sont regroupées pour travailler sur les questions de santé ou de parentalité, pour mettre en place des projets coordonnés ou portés par plusieurs structures. La démarche initiée par le contrat de ville a conduit à identifier des enjeux globaux sur l'ensemble des QPV, les quartiers politiques de la ville, et des enjeux plus spécifiques par quartier. Les exemples sont repris dans la motion. Je veux me faire mienne de la conclusion du rapport dont Margot avait déjà parlé, de Ring Karolik sur les adolescents et jeunes adultes dans les quartiers politiques de la ville. Je vais citer un jeune d'un quartier. Quand tu nais dans un quartier, tu n'as pas la même chance que d'autres. L'avenir est plus noir ici. Cette phrase vient nous rappeler que la politique de la ville doit plus que jamais tenter de réduire les inégalités qui persistent. S'il s'agit d'innover sans cesse, de construire des dispositifs qui pourront demain faire bouger les lignes et les horizons pour ces quartiers, il nous faut aussi lever les craintes pour intégrer ces quartiers et ces habitants à l'ensemble de la ville. Tisser du lien social avec des populations qui se sentent exclues, valoriser ces quartiers, accueillir la déception, la colère, la rage, mais aussi l'envie, le désir, tenter d'amener sans cesse de nouvelles perspectives aux habitants constituent des défis quotidiens pour l'ensemble des professionnels de terrain et des pouvoirs publics. Gandhi disait « Ce que vous faites sans moi, pour moi, vous le faites contre moi ». Cette phrase trouve une réelle résonance dans toutes les actions entreprises par la ville. Si de nombreuses actions existent au profit des adolescents, des adultes dans les quartiers, il s'agit de penser systématiquement le travail comme une construction réalisée avec eux. Je citerai le projet de MJC autogéré par la MJC de Borny, qui va être soutenu par la Service Jeunesse et la politique de la ville. Ils doivent être entendus et prendre part au projet de leur quartier et reprendre la main sur leur quotidien. Et on voit très bien que les MESA reprennent la main sur leur quotidien. Plus de 800 projets pour le budget participatif. Nous avons vu l'énergie des jeunes de Metz-Nord qui se sont battus pour que leur projet aboutisse. Donc il y a vraiment un réceptacle qui est là et une envie qui est là. Au travail d'éducation à la civilité doit succéder un travail d'éducation à la citoyenneté. Le statut de citoyen est inné, mais les compétences et connaissances nécessaires pour occuper ce statut et le faire vivre doivent s'acquérir. C'est au travers du statut de citoyen que des personnes différentes pourront se retrouver et se sentir reconnues, quel que soit leur lieu d'habitation. Face à des phénomènes de repli sur soi, l'ouverture d'espaces de parole, le développement de l'esprit critique et l'affirmation de droits et de devoirs consistent sans nul doute de précieux outils. Ni passifs, ni résignés, telle est la devise de notre action politique, mais également la devise des habitants des quartiers. La motion est en conséquence.
Merci. Alors, Monsieur Aldrin, vous avez annulé votre prise de parole. Je ne vais pas vous obliger, allez-y.
Non. Non, oui, c'est vrai que je m'exprime rarement sur les points concernant la politique de la ville, mais il est vrai que la sortie de notre ministre m'a profondément choqué. Ce ministre, que je pense peu de personnes connaissent, peu de Français connaissent, M. Kenner, probablement en manque de notoriété, qui a dû faire le buzz à une émission de radio pour dire qu'il y avait 100 Molenbeek en France. La question n'est pas de savoir s'il a raison ou s'il a tort. La question, c'est qu'un ministre ne doit pas faire des constats, il doit agir. Et doit-on comprendre qu'il y a dans sa phrase un terrible aveu d'échec de la politique de la ville en France, que je pense qu'il faut l'interpréter effectivement comme ça. Baisse des crédits d'État liés à la rénovation urbaine. Baisse des crédits d'État liés à la rénovation urbaine. Rendez-nous Borloo, parce que Canner, c'est sympathique, mais rendez-nous Borloo. Hein. L'ANRU 1, c'était quand même autre chose que l'ANRU 2. Baisse des crédits du dispositif de réussite éducative. C'est vrai que la lutte contre l'illettrisme, l'apprentissage du français, la maîtrise du français ne doit pas être une priorité, visiblement. Et puis ici, je dois quand même le dire que plusieurs fois, j'ai quand même rappelé que dans les fléchages, les priorités dans les subventions politiques de la ville, la partie développement économique, insertion professionnelle avait vu ses crédits baisser. J'avais même proposé un amendement dans le mandat précédent pour qu'on réoriente ça. Ça avait été refusé. Il est vrai que l'insertion professionnelle ne doit pas être une priorité s'agissant de la politique de la ville. Et je vous entends, Madame Saïdi, faire des grandes et belles déclarations sur la citoyenneté. Mais quelle initiative marquante avons-nous pris depuis les attentats de 2015 en France pour remettre au cœur du bien commun, de la vie de la cité, la notion de citoyenneté et de civisme. Nancy en a pris une que je trouve remarquable, et j'aurais aimé qu'on ait cette même perspective et ce même sens. Ils ont créé une réserve civile et citoyenne au lendemain des attentats du 13 novembre. Alors tout ça, c'est bien, c'est des belles déclarations, c'est un beau catalogue, comme à chaque fois, mais je crois qu'il est temps d'arrêter ces constats, ces jérémiades, pour passer enfin à l'action. Je vous remercie.
C'est moi qui la remplace. Monsieur le maire, je prends la place de Madame Molinet. Oui. Ben oui, mais bon.
On y va.
Elle a souhaité, voilà.
Madame Listerbega.
Alors, oui, monsieur le maire, alors, je m'inscris tout à fait en faux de ce qui vient d'être dit par monsieur Aldrin, parce que vraiment, je ne vois pas du tout ça comme. Comme un projet de jérémiade, bien au contraire. Et je souhaiterais quand même rappeler quelque chose d'intéressant qui n'a pas été relevé par la rapportrice, c'est que j'ai l'impression que là, quand même, nous sommes sur le chemin de la communauté urbaine. Il ne faut pas l'oublier. C'est un contrat signé entre la ville de Metz et Metz Métropole. Et donc là, on est sur un contrat de ville-Metz Métropole. C'est quand même intéressant. Et moi, je suis plutôt agréablement surprise de voir le nombre de projets qu'il y a et de projets innovants. Je suis allée dans certains quartiers, je suis allée à Borny, je suis allée rencontrer, par exemple, une des écrivaines publiques, mais c'est extraordinaire le travail qu'elle fait. Et ce que nous leur donnons pour permettre de continuer à œuvrer sur les quartiers, eh bien, moi, je trouve que c'est bien peu par rapport au travail qu'ils rendent au niveau de la collectivité. Moi, je trouve ça extraordinaire. L'apprentissage du français, par exemple, est-ce que c'est du ressort du monde associatif de faire de l'apprentissage du français? Moi, je dirais plutôt que c'est l'affaire de l'État pour insérer les populations aujourd'hui qui ne parlent pas français, pour qu'elles puissent parler entre nous, avec nous, pour qu'elles puissent converser, pour qu'elles puissent se faire comprendre, pour qu'elles puissent entrer dans la société. C'est quand même la moindre des choses. Ces populations ont choisi de vivre, de venir chez nous, qu'on leur permette d'apprendre la langue. Donc c'est de la responsabilité de l'État. Et là, nous, on prend cette responsabilité, on prend ce travail en charge. Eh bien, merci au monde associatif de mettre ce genre de choses en place. Nous connaissons tous et toutes ici des personnes qui travaillent, qui font du bénévolat, qui nous demandent des livres pour savoir comment apprendre le français à des gens qui n'ont jamais parlé français. Donc, de grâce, il ne faut pas le voir, ce ne sont pas des jérémiades. Au contraire, ça montre le dynamisme, ça montre la vivacité du monde associatif. Je voudrais aussi parler un tout petit peu du monde associatif environnemental. Et là, je suis un peu déçue parce que il y a le chemin de l'éco-citoyen, c'est bien, mais je crois que nous devons, monsieur le maire, encourager le monde associatif dans les quartiers pour parler aussi d'environnement, pour parler d'écologie, pour que nous puissions mettre en œuvre l'accord de Paris de la COP21. Nous devons accompagner le monde associatif et ben, nous devons aussi, nous, en tant qu'élus, aller sur le terrain pour leur expliquer. Et je pense que ça fera partie d'un prochain projet que nous aurons avec les Récollets pour aller de nouveau vers nos concitoyens pour parler et pour leur expliquer l'environnement. Je vous remercie.
Merci, madame. Monsieur Gourlot.
Merci, monsieur le maire. Oui, ça fait 30 ans que la politique de la ville est un tonneau des Danaïdes, un gouffre sans fin. Là, vous parlez de subventions perdues. Là, vous avez vraiment l'enfer des subventions perdues avec la politique de la ville. Hein, mais bon.
Laissez parler l'orateur.
Et sans résultat, oui. Et pour en revenir donc au sujet, comme tout, c'est un catalogue où on trouve des choses bien et des choses moins bien, évidemment, à notre sens. Tout ce qui est subvention à des associations communautaires, évidemment, nous ne voterons pas pour. On déplore aussi que les missions de services publics soient données à des associations, pourquoi pas, mais à des associations communautaires, ça ne nous semble pas, disons, un bon signe en matière d'intégration. De plus, il y a aussi des choses beaucoup plus politisées, comme SOS Racisme, bien sûr, qui est une association hyper politisée, qui ne dénonce que du racisme à sens unique. Le jour où on donnera des subventions à la GRIF, par exemple, qui est l'Alliance Générale contre le Racisme et pour l'identité française et chrétienne, et qui est reconnue par les tribunaux et qui défend tout ce qui est le racisme anti-français, le racisme anti-blanc, le racisme anti-chrétien, qui sont d'ailleurs les racismes en hausse, parce que quand on voit les spots des gouvernements, ils oublient quand même les principaux racismes. C'est vrai qu'il y a une montée des actes antisémites, c'est vrai qu'il y a une montée des actes anti-musulmans, mais il y a une explosion, si j'ose dire, des actes anti-chrétiens. Mais cela, il passe sous silence. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, évidemment, sur l'ensemble, nous voterons pour, sauf les assurances communautaires ou politisées comme SOS Racisme.
Merci, madame, pour votre groupe, pour 5 minutes. Alors, je préviens les orateurs, de façon à ce qu'ils laissent chacun un peu de place pour les autres. Je commence par M. Wendling.
Monsieur le maire, dans le cadre de la politique de la ville, vous nous proposez une liste de subventions en partenariat avec l'État et destinées aux associations qui œuvrent dans ces quartiers. Et vous indiquez dans le rapport que les associations des quartiers nouvellement entrés ou agrandis dans la politique de la ville ont été renforcées et que pour Borny, une meilleure coordination des actions dans le quartier de Borny est visée. Cela veut dire en langage clair que la part réservée au quartier de Borny a été diminuée. J'en prends acte. Vous aviez la possibilité, puisque les quartiers de la politique de la ville touchés par la politique de la ville ont augmenté à Metz, c'est-à-dire que la précarité dans la ville de Metz a augmenté, finalement, d'augmenter l'enveloppe globale. Vous ne l'avez pas fait, c'est un choix budgétaire qui vous revient. En revanche, ça fait plusieurs mois que vous devez nous présenter le contrat, les grandes orientations du contrat de ville. Vous nous l'aviez promis pour le mois de novembre, nous sommes pratiquement en avril. Nous avons pris du retard et en plus vous refusez de débattre de ce sujet au conseil municipal et même en commission. Alors vous avez déjà 6 ans de retard puisque la troisième phase du GPV devait se terminer le 31 décembre 2010. Vous auriez pu régler les problèmes de la cour du Languedoc, des immeubles adjacents, des parkings, des écoles, des copropriétés gradées. Mais pour revenir aujourd'hui au présent, vous refusez d'avoir un débat sur ce sujet, vous refusez d'en débattre, et comme dans plein de domaines, vous pensez tout savoir, vous ne prenez l'avis de personne, et c'est une démarche qui, malheureusement, va à l'encontre de l'intérêt des habitants de ce quartier. Merci.
Merci. Madame Colin-Sterlé.
Je laisse ma parole, mon temps de parole.
Merci, madame. Monsieur Thiel.
Oui, monsieur le maire, vous savez, je pense que le succès de la politique de la ville, ça serait sa disparition. On est bien d'accord, parce que, évidemment, ça voudrait dire qu'elle a parfaitement réussi et qu'il n'est plus nécessaire d'apporter des fonds sur un certain nombre de quartiers. C'est pourquoi je nuancerai un peu le propos de mon collègue, s'il me le permet, en lui disant que si Borny a moins d'argent, c'est peut-être qu'il y a eu des réussites qui ont été remarquables et qu'il y en a aujourd'hui moins besoin qu'ailleurs. Donc il y a d'autres quartiers à Metz qui, effectivement, méritent aussi des attentions. Et il y a même des quartiers qui ne sont jamais apparus dans ce critère, comme par exemple le Sablon, qui aujourd'hui est un quartier qui souffre beaucoup et qui mériterait d'être aussi fléché, parce que les problèmes se sont déplacés. Il y a une certaine dynamique, si j'ose dire, hélas, des problématiques sociales. Là-dessus, je voudrais insister, monsieur le maire, parce que j'ai lu avec attention les fiches des différentes associations, en faisant néanmoins très rapidement un préalable méthodologique. Je sais qu'il est habituel, finalement, de présenter le rapport de politique de la ville en plusieurs phases, comme l'a dit la rapportrice. Je trouve que, du coup, on y manque, si j'ose dire, d'un regard un peu global. Par exemple, j'étais heureux de l'entendre dire que nous sera présenté un rapport en juillet, je sais bien que c'est classique, mais notamment sur le domaine de l'emploi, que je trouvais effectivement moins fléché dans ce qui nous était présenté aujourd'hui. Donc, je trouve que pour l'avenir, de manière méthodologique, même si je sais qu'il y a énormément d'associations qui sont concernées et que c'est forcément compliqué administrativement, je me mets à la place des services, mais ça serait bien quand même d'avoir un point qui nous soit présenté une fois, je veux dire, dans l'année, quitte à avoir des avances sur subventions pour qu'on ait une vue plus globale des choses. Alors, il me paraît prioritaire, si vous voulez, de souligner ce que les fiches elles-mêmes mettent souvent en priorité. À savoir, mais Mme Zimmermann y reviendra sûrement, l'égalité homme-femme, c'est souvent qu'on retrouve cela. D'autre part, favoriser l'accès à l'emploi des femmes, notamment, mais elle en parlera sûrement mieux que moi. Et puis, je voudrais mettre l'accent sur deux choses, le décrochage scolaire et, évidemment, l'égalité. Bon, j'étais heureux d'entendre la rapportrice nous dire que c'était un des axes forts de lutter contre les inégalités, et je crois que c'est cela qu'il faut encourager, notamment les associations qui portent vers l'effort, vers le mérite, et vers de faire en sorte que chacun se sente un mécène, un Français comme un autre. C'est absolument indispensable à mes yeux. Et je voudrais terminer simplement, pour ne pas être trop long, pour vous dire que là aussi, il faut être méfiant sans mettre le pied dans l'étrier qui nous était tendu par le Front National. J'estime pour ma part également que les associations qui ont pour but d'entretenir ce qu'on appelle le regard communautaire méritent d'être soutenues, mais à mon avis de manière moindre que ce qui doit entraîner chacun vers, je dirais, ce moule commun de la République et ce moule commun républicain. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, à mon avis, les associations qui mettent en évidence ce qu'on appelle dans les rapports la diversité, relèvent, à mon avis, du même schéma de pensée que lorsque on veut favoriser l'histoire du Sablon ou l'histoire de Devant les Ponts ou les associations de joueurs à la pétanque, etc. Bon, c'est-à-dire, c'est bien que les gens se regroupent, c'est bien qu'ils soient ensemble, mais, je veux dire, même qu'ils soient aidés par la municipalité pour ce faire, mais à mon avis, c'est un moindre degré que de faire les efforts. Je note d'ailleurs que je l'ai dit à plusieurs reprises et que je trouve qu'il y a, de ce point de vue-là, un rééquilibrage qui est fait déjà par les rapports qui nous sont présentés ici.
Merci, Monsieur Thiel. Madame Zimmermann.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, de nombreuses choses ont été dites. Simplement, moi, je voudrais appuyer effectivement ce que vient de dire Patrick Thiel. Parce que, et ça, jadis naguère, vous vous en souvenez, je pense, monsieur le maire, mais j'ai toujours plaidé pour qu'effectivement, il y ait une meilleure répartition sur d'autres quartiers, notamment celui de Metz-Nord. Et heureusement, à un certain moment, qu'il y a eu le programme en rue avec Voipy pour que Metz-Nord bénéficie de quelque chose. Parce que tout partait effectivement à Borny. Alors, qu'il y ait une diminution...
C'est vrai.
Voilà. Ah ben non, mais attendez, je crois qu'il faut être sérieux.
Et encore, bon. Ça n'a pas été parfait.
Voilà. Et je pense qu'on partageait très souvent le même point de vue là-dessus. Et je dirais que quelque part, je ne dirais pas que ça me satisfait, mais il y a là aussi un régime d'égalité à avoir sur l'ensemble des quartiers, parce que je crois que les difficultés sur d'autres quartiers sont tout aussi grandes, sinon plus, et ce n'est pas parce qu'un quartier est petit que les difficultés sont petites, bien au contraire. Et notamment, là aussi, jadis naguère, rappelez-vous d'un quartier qui a beaucoup, beaucoup souffert d'un manque, je dirais, de travail avec à la fois l'ensemble des éducateurs, mais même, à un moment, on a même déplacé les éducateurs vers le haut du sablon, c'était à Nobaral. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire de cette égalité. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, par contre, ce que je souhaiterais, si vous voulez, parce que j'ai lu l'ensemble des activités. Et alors, bon, moi, il y a quand même un point qui me dérange un petit peu, c'est que je ne vois pas suffisamment, et même si Madame Isler-Béguin l'a noté, l'apprentissage du français. Parce que, effectivement, c'est une réalité et c'est l'État. Et vous savez aussi bien que moi que c'est sur des plateformes que l'apprentissage du français se fait. Et ensuite, il y a le relais qui est pris par des associations. Mais je crois que ce n'est pas seulement l'apprentissage du français par l'ensemble des jeunes, mais l'apprentissage du français par les femmes, notamment, et notamment les femmes qui ont un certain âge, qui malheureusement se trouvent au fin fond de leur appartement, et lorsque elles sont convoquées à l'école primaire, soit au collège, soit au lycée, elles ne comprennent pas. Et ça, je crois que c'est un travail. Mais alors, important à mener, c'est l'apprentissage et aller vers cette population pour leur apprendre le français. Lorsqu'on vit dans un pays, on a besoin de connaître la langue du pays. D'autre part, il y a également un autre point, une question, c'est au niveau de l'histoire. Alors, c'est peut-être la prof d'histoire qui parle, mais lorsque, par exemple, sur l'association des travailleurs turcs de la Moselle, qui font un très bon travail, on fait l'histoire de l'immigration. Mais c'est très gentil. Sauf que j'aimerais bien qu'on ait aussi l'histoire simplement du pays qui les accueille. Et je ne le vois nulle part. L'histoire de ce pays, alors certes, il y a, oui, l'apprentissage à l'école, mais lorsqu'on connaît, bon, et tout le monde suit un petit peu, j'irais l'évolution des programmes d'histoire, je crois que là, ce que je demande pour cette politique de la ville, c'est qu'il y ait peut-être un lien beaucoup plus étroit avec l'ensemble des écoles et que quelque part, il y ait vraiment à la fois que lorsqu'on étudie l'histoire de l'immigration, on étudie l'histoire de France, qu'on ait en quelque sorte, je dirais quand même, au moins l'histoire du pays où on vit. Et dernier point, ce que je souhaiterais surtout, c'est qu'il y ait, mais alors, vraiment une place extrêmement importante. Vous l'avez un petit peu abordé lorsque vous évoquez notamment les points concernant les jeunes et surtout les jeunes adultes. Et là, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait vraiment un accompagnement de ces jeunes adultes, notamment lorsque, au niveau des associations, il y a un travail qui est fait sur Internet. Certes, Internet, c'est également dans les appartements, c'est dans leur domicile, mais ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il y ait un réel accompagnement sur cette pratique d'Internet et ce dialogue qui doit être fait. Et surtout, quelque part, alors autant dans l'autre rapport, on avait le chiffre de 600. Très bien. Et d'ailleurs, je l'avais lu dans le rapport, donc je n'ai pas très bien compris ce qui posait la question. Mais ce que je souhaiterais, c'est savoir, dans cette politique de la ville, combien de personnes sont concernées. Parce que là aussi, il y a un besoin absolu aujourd'hui d'avoir ce dialogue qui manque dans ces quartiers. Ce dialogue, parce qu'il ne faut pas que ça soit des associations qui rassemblent une vingtaine de personnes, ce n'est pas suffisant. Et je reconnais que c'est un travail extrêmement dur, un travail extrêmement prenant pour l'éducateur, et c'est là où, quelque part, je dirais que c'est un adjoint à plein temps, même un adjoint qui n'a pas d'activité professionnelle, qui doit être au contact de cette population, parce que, tout simplement, il y a, je crois, aujourd'hui, un besoin réel. Et c'est pas Marie-Jo Zimmer... Non, mais je rigole pas. Et je vais vous dire, ce qui m'a inspiré mon intervention, c'est la question d'une de mes collègues socialistes hier sur la politique de la ville. Et je ne sais pas si Aurélie l'a entendu, c'était Madame Chapdelaine qui a bien mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est aussi l'échec de la politique de la ville. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un député républicain qui l'a dit, c'est une députée socialiste. Donc, il est grand temps qu'aujourd'hui, à la fois, on arrête de s'abreuver de bonnes paroles, on arrête de dire que tout va bien et qu'on prenne les choses correctement en compte et qu'on ne soit pas, nous, les méchants qui n'acceptons pas toutes les bonnes paroles que vous nous donnez. On y croit, sauf que, quelque part, la réalité, elle n'est pas forcément là. Et là, je souhaiterais vraiment que, à l'image de ce qu'a dit mon collègue Patrick Thiel, il y ait vraiment, vraiment, beaucoup plus, je dirais, de lisibilité sur le retour que l'on a de cette politique de la ville. Parce que il y a des questions qu'on pose, où on nous répond, écoutez, il n'y a pas de problème, on a des associations qui s'en occupent, etc. Ok, et je sais qu'à la fois... Que ce soit Yves Wendling, que ce soit Nathalie Nicolas, Osterley Martin Nicolas, que ce soit Patricia Arnold, qui s'est beaucoup occupée de d'autres quartiers, Patrick, tous, à un moment ou à un autre, on est présents dans des associations. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'au conseil municipal, on ait, parce que c'est le lieu où, effectivement, il y a des décisions à prendre, il y ait vraiment des rapports très exhaustifs sur la politique de la ville. Merci beaucoup.
Merci, madame. Alors, Madame Sallusti.
Oui, Monsieur le maire. La situation des habitants des quartiers de la politique de la ville au regard de l'emploi, beaucoup l'ont évoqué ici, est l'un des principaux problèmes à régler, non pas comme un énième séparatisme au nom duquel il faudrait faire ici autrement qu'ailleurs, mais bien parce que les quartiers les plus populaires sont révélateurs d'un écart de plus en plus marqué entre la capacité intégrative du marché du travail et ceux qui n'y accèdent pas, ou mal, ou lentement. Or, si notre société est en mesure de développer pour tous ces capacités intégratives, c'est d'abord par le marché du travail, et certains l'ont évoqué, qu'elle y parvient plus que par des mesures réparatrices ou correctives. Notre premier enjeu doit donc être de rapprocher le marché de l'emploi des quartiers populaires et des médecins les plus en difficulté. Comment ? En accompagnant l'implantation d'entreprises, leurs besoins de recrutement, le développement d'activités émergentes, et c'est l'un des objectifs de ce contrat de ville, notamment dans sa deuxième programmation, grâce à l'impulsion des élus, mais aussi à l'action de Metz Métropole Développement, et nous le souhaitons, des chambres consulaires. C'est aussi en accompagnant la création ou la reprise d'activité de ses habitants et en créant demain un écosystème favorable à l'entrepreneuriat dans les quartiers, à l'instar de ce que nous faisons à TCRM Blida. Utiliser les marchés publics, notamment ceux que nous lançons, pour insérer durablement les médecins fragilités dans l'emploi, c'est une autre manière de les insérer durablement. 50 000 heures sont prévues par an sur les chantiers Agora et Centre des Congrès. sur les marchés publics, mieux connaître et accompagner les difficultés spécifiques de ces publics pour pouvoir les accompagner encore mieux. C'est une réalité depuis la mise en place à l'automne dernier du plan Starter pour l'emploi qui a accompagné plus d'une centaine de médecins de tout quartier et pas seulement des quartiers populaires dans une dynamique d'accompagnement personnalisé. Les exemples de mobilisation ne manquent pas, comme le dynamisme de chantier d'intersertion porté par Mespol Service, notamment, qui salarie, accompagne, forme plus de 200 personnes par an, des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. L'action vers les acteurs économiques se développe, celle en direction des publics s'intensifie, mais n'en doutons pas, la situation à redresser dans un contexte économique incertain est immense. C'est la raison pour laquelle la municipalité prête aussi une grande attention, et nous y étions hier, à la loi d'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, portée par le député Grand-Guillaume et qui a été initiée par ATT Quart-Monde et votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat. Mes chers collègues, nos trois défis sont là, saisir les besoins du marché, mieux identifier et accompagner tous les publics et oser l'innovation au service d'un territoire inclusif de tous ses habitants, sans distinction de sexe, d'origine ou d'adresse ou de fragilité sociale. Je porte l'intime conviction qu'ils sauront nous rassembler au-delà de nos appartenances politiques, parce qu'il s'agit bien ici aussi de développement économique et social de notre cité et bien au-delà d'elle, de tout l'espace métropolitain. Je vous remercie.
Merci. Dernier orateur, Madame Kosik.
Oui, merci, Monsieur le maire. Je souhaitais aborder deux points. D'abord, la réforme institutionnelle de la politique de la ville, qui est quand même une réforme majeure. Le ministre socialiste Lamy a eu beaucoup de courage en modifiant la géographie prioritaire. Il s'est sans doute fait beaucoup d'ennemis, hein, puisque les quartiers sont passés de 2000 à 1000, parce que le seul indicateur qui a été mis en avant, c'était le nombre de familles pauvres. Alors, M. Wendling n'est plus là. Ce n'est pas qu'il y a plus de familles pauvres à Metz, mais qu'aujourd'hui, à partir du moment où l'indicateur, c'est le nombre de familles pauvres, alors oui, on a d'autres quartiers qui ont émergé et qui font aujourd'hui toute l'attention du soutien financier de l'agglomération, de l'État et d'autres collectivités. Ça, c'est la première chose. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques à cette évolution institutionnelle, notamment mettant en avant en permanence le risque de la perte de la proximité. Or, on voit bien que dans cette délibération, ces transformations institutionnelles, qu'il s'agisse de la géographie ou de l'intercommunalité, démontrent que ça n'impacte en aucun cas la question de la proximité. Quand on regarde effectivement ce qui nous est proposé là, qu'il s'agisse de la présence humaine dans les quartiers, qu'il s'agisse de l'accès aux droits, qu'il s'agisse de l'appui à la création d'activités et d'emplois, comme vient de l'expliquer Patricia Sallusti, ce sont tous là des objectifs majeurs qui vont améliorer, qui vont continuer à améliorer le quotidien des habitants. Il repose d'abord sur le professionnalisme des associations. Ça a été dit. Hein, je crois qu'aujourd'hui, il convient de les soutenir parce qu'elles sont, avec les agents des services publics encore présents dans ces quartiers, le rempart contre l'isolement et l'abandon. Elles nous rappellent tous les jours que c'est finalement au plus près de la vie quotidienne des familles, en apprenant le français, en parlant de santé, en préparant une fête de quartier, en participant à des activités ludiques, culturelles, sportives, en discutant avec des adolescents, qu'on maintient le lien social. C'est ça qui est essentiel et c'est ce qui combat finalement de façon plus efficace le rejet et la violence. Je vous remercie.
Merci. Madame Saadi.
Je vais essayer de faire une réponse globale à tout ce qui a été dit. Je veux juste rappeler un chiffre. 30% des personnes qui habitent les quartiers politiques de la ville le quittent. Ça veut dire que leur niveau s'est amélioré et s'est accentué. L'échec de la politique de la ville, c'est l'échec de notre politique de peuplement. de logements dans notre société. Comme l'a dit Manuel Valls, il y a une ségrégation qui a été faite par, par cette politique de logement. L'échec de cette politique de la ville, c'est aussi peut-être les moyens de droit commun qui n'ont plus lieu dans ces quartiers. En 2012, un rapport de la Cour des comptes l'a bien montré, qui a repris tous les facteurs, a bien montré que ces quartiers politiques de la ville, sur le droit commun, étaient moins dotés que le reste du territoire. Et de plus en plus, par rapport à ça, il y a une idée reçue des Français en France qui dit qu'on donne beaucoup plus à ces quartiers, ce qui est faux. Par contre, la ville de Metz met vraiment les moyens, plus d'un million d'euros sur ces quartiers politiques de la ville, sur des choses qui sont ciblées. Et vous avez évoqué beaucoup de sujets qui ne sont pas repris dans ce contrat, parce que ce n'est pas des subventions directes. Mais on y travaille déjà. Sur l'apprentissage du français, il y a tout un travail qui est fait de réseaux associatifs avec Anime Fleu, avec Nouvelle Vie du Monde, où derrière, il y a des groupes de travail qui sont mis en place. Par exemple, sur les personnes âgées, c'est des groupes de discussion qui ont lieu dans les quartiers, mais qui ne ressortent pas ici. Il y a tout un travail, il ne faut pas oublier, on a fait appel à la bonne volonté des médecins, par exemple, avec le CCAS, pour accueillir des réfugiés. Mais derrière ça, on a beaucoup de personnes qui se sont portées volontaires. Et derrière ça, nous avons mis en place et nous avons coordonné des formations pour aider ces volontaires pour l'apprentissage de la langue sur cette partie-là. Sur globalement la vision et les résultats de la politique de la ville. Moi, je n'aime pas les caricatures qui ont pu être faites ici en disant que ça ne sert à rien, que ça ne sert à rien. Déjà, c'est méprisant pour les acteurs locaux, le travail de terrain qui est fait. En termes de chiffres, et vous avez raison, on va être de plus en plus précis par rapport aux chiffres sur les personnes que nous suivons par le dispositif Booster pour un retour vers l'emploi, que nous suivons individuellement. Un dispositif qu'on a commencé au mois de janvier, déjà plus de 100 personnes qui sont suivies et nous allons continuer pour le faire. Alors sur la cohérence de ce dispositif, il y a deux programmations parce qu'on est tributaire de tous les signataires, plus d'une vingtaine de signataires qui sont autour de la table. Et c'est cette force et cette richesse qui va nous faire avancer. Et pour le prochain contrat de ville, et j'espère pour l'année prochaine, pouvoir présenter ça encore beaucoup plus tôt et mettre un maximum de choses en programmation. Par exemple, concernant l'emploi, on en a beaucoup moins sur cette première programmation parce que simplement, les projets qui nous ont été soumis, on s'est posé et on s'est dit, c'est pas assez ambitieux en termes de création d'entreprise. On est toujours là sur du suivi social des habitants, mais on n'est pas là en termes de vente de nos territoires parce que nos territoires sont attractifs, qu'il y a des entreprises qui peuvent s'installer. Et on va travailler avec Metz Métropole Développement pour vendre nos territoires. Par rapport à ça, on a des jeunes qui veulent créer des entreprises. On a vraiment de l'entrepreneuriat qui est dans ces quartiers et on veut développer ces passerelles. Et donc, on va réfléchir. Et pour cette deuxième programmation, nous allons le faire à la deuxième programmation parce qu'on réfléchit à ces dispositifs. Monsieur Aldrin, quand vous nous dites je fais des belles incantations par rapport au civisme ou autre chose, mais beaucoup de choses sont faites par les gens, et pas que dans les quartiers politiques de la ville, parce que aussi depuis les événements, moi non plus j'ai pas voulu communiquer parce qu'on rattache tous ces événements qu'aux habitants des quartiers politiques de la ville. On a une crise de société. On a une crise de société qui n'est pas française. Forcément franco-française, mais on a une crise de société qui est plutôt, moi je dirais, mondiale. Mais il y a des prises de parole quotidiennes et hebdomadaires avec des jeunes dans les quartiers, par les clubs de prévention. Il y a un travail sur la prévention virtuelle, la prévention de rue par rapport à Internet, ce que vous aviez dit, la prévention de rue qui se met en place, qui est mise en place. Et je voudrais surtout rappeler à certaines personnes de l'extrême droite que pour moi, il n'y a pas des racismes, mais il y a un seul racisme. C'est ça la différence entre nous et eux. C'est ça la différence entre moi et les communautarismes ou les gens qui sont identitaires. Voilà la différence par rapport à ça. Il n'y a qu'un seul racisme. Et quelle que soit la victime, on sera là pour la défendre haut et fort, quoi qu'il arrive. Par rapport aux associations qu'on traite ici de communautaires, ils ont une histoire. Ils ne sont pas forcément communautaires. Ils ont évolué. Ils avaient des intérêts communs au début. Ils avaient des intérêts communs parce que les personnes revenaient de la même région d'origine. Mais ils se sont totalement imprégnés du tissu associatif. Et aujourd'hui, ils permettent d'animer les quartiers les quartiers, ils ont vraiment une approche de proximité qui est intéressante pour nous et pour les pouvoirs publics. Parce que s'ils étaient communautarisme, je vous assure qu'ils ne seraient pas là et ne seraient pas financés aujourd'hui, parce que j'en ai une paire de listes d'associations communautaristes qui voudraient qu'on leur donne des subventions, et ça sera niet. Parce que l'intérêt commun, c'est l'intérêt de tous les habitants, quel que soit leur lieu d'habitation et leur origine. C'est ça qui fait notre richesse et qui porte notre politique au plus haut par rapport à cette politique. Et monsieur Velling, nous avons eu nous avons eu un débat sur le contrat de ville en juillet 2015. Et ce contrat est public sur le site de Metz Métropole, parce que c'est la métropole aussi qui le porte, et c'est en public sur Metz Métropole. La chose qu'il confond, c'est que nous n'avons pas encore passé le protocole d'accord de l'ANRU. Parce que moi, j'en ai marre des discours que d'une personne, parce que j'ai apprécié les propos de la droite sur cette table, parce que c'est vraiment un sujet qui est consensuel. Mais les propos de « vous avez qu'à faire, on a fait, on a déjà tout fait », ça ne peut plus marcher dans ces quartiers. Ce projet, il avance, et en juillet, on aura une présentation, parce que ce protocole, il ne dépend pas que de nous, mais il y a des acteurs autour de la table. Il y a l'ANRU, il y a l'OJS, et puis il n'y a pas que la Cour du Languedoc. Moi, je pense à Boileau-Prégénie, hein, où on voit une cassure nette à Wapi, entre la partie de Wapi et la partie Boileau-Prégénie, où il y a des choses à faire. Donc, c'est aussi, il n'y a pas que se focaliser, mais c'est une vision globale sur l'ensemble de la ville. Vous avez raison, et quand il dit, M. Velling dit qu'il y a moins de moyens politiques de la ville dans ces quartiers, moi, la première des choses dans mon travail, c'est pas de savoir quels moyens en plus je vais mettre sur la table, mais c'est quels moyens je vais mobiliser de tous les acteurs qui sont là pour qu'on soit tous plus innovants ensemble et que notre cible, notre cœur de cible, on puisse l'atteindre ensemble. C'est ça notre rôle. Et il y a par rapport au Sabon Sud, parce qu'on a eu des remarques au Sabon Sud, nous n'avons, sur cette première programmation, nous avons mis en place un écrivain public qui est copartagé avec les Hautes-Vallières pour que chacun arrête de traiter chacun dans son coin, mais que ce soit des problématiques qui soient partagées. Et dans la deuxième programmation, nous aurons une partie sur Sablon Sud. Mais d'abord, ce que nous avons fait, c'est surtout mobiliser le droit commun sur ce quartier. Et je vous invite tous le 14 avril à l'Arsenal, à une représentation théâtrale des Tréteaux de France qui va reprendre la parole des habitants. Tout un travail qui a été fait sur la parole des habitants, sur l'histoire des habitants, sur l'immigration. Et je rassure Mme Zimmermann par rapport au travail de la TTM sur l'immigration. C'est le sens même de leur travail. Vous aviez un doute sur qu'ils ne vont pas parler de l'histoire de France et tout. C'est le sens même du travail qu'ils vont établir. C'est qu'aujourd'hui, pour combattre ces néo-obscurs, il faut qu'on ait un réel travail. Et je salue le travail du Musée de l'immigration qui est fait sur Paris sur l'histoire de l'immigration, de nos migrations et le report à notre identité et à notre identité française.
Merci. Madame, merci pour ce débat. Je voudrais regretter, je voulais répondre à M. Manning, il n'est pas là. Sans doute était-il parti s'occuper de la passerelle de la Seille à Queuleu qu'il a combattu tant qu'il a pu pour éviter qu'elle se fasse. Mais je commence à être un peu fatigué par son histoire de « tout était prêt dans les tiroirs en 2008 et qu'il n'y avait qu'à le faire dans les 6 mois ». Il est ridicule. Et il est ridicule d'autant plus qu'il n'est pas là pour répondre, pour entendre la réponse que je voulais lui faire. Mais je l'ai faite. Qui s'occupe de la passerelle de Queuleu et qui nous laisse tranquille avec la Cour du Languedoc, dont nous nous occupons sérieusement, avec tous les acteurs. Voilà. Je voudrais dire également mon insatisfaction à M. Aldrin. Monsieur Aldrin dit l'État baisse. Écoutez, moi j'écoute les projets des candidats à la présidentielle. Et ce n'est pas 50 milliards qu'ils veulent économiser, c'est pour les plus bas, c'est 100 et ça va jusqu'à 120. Alors je ne sais pas s'ils vont nous remettre de l'argent dans la politique de la ville, mais j'en suis pas sûr. Alors ne cherchez pas tel ministre ou tel ministre qui a dit ceci et cela, d'autant plus que souvent on déforme ce qu'il a dit, parce que moi j'ai écouté en détail ce qu'il a dit, et je pense qu'il faut être un peu prudent sur « ils ne sont pas bons parce qu'ils baissent les crédits ». Parce qu'en ce moment, je ne sais pas où ça va aller, mais je ne suis pas certain que si jamais la droite passe, les crédits vont remonter partout. Je suis même certain du contraire. Alors maintenant, je dirais ici de cette politique de la ville, nous avons eu la malchance et en même temps la chance qu'on reconnaisse que nous avions 5 quartiers politiques de la ville, alors qu'on a divisé par 2 le nombre de quartiers politiques de la ville en France. Ce qui veut dire que déjà, nous avons les charges de centralité de la culture, nous avons les charges de centralité du sport, nous avons les charges de centralité de tout un tas d'activités. Et en plus de ça, on a les charges de centralité de la misère. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand il y a des immigrés qui arrivent et qu'on les met à Harry, on a tout de suite des bonnes âmes qui disent « mais c'est intenable, ils ne peuvent pas rester à Harry. Hein, ils vont s'ennuyer, c'est épouvantable. » Et où est-ce qu'ils arrivent, devinez ? Ils arrivent à Metz. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a un divorce, hein, avec quelqu'un qui est licencié de son boulot et qui habite avec sa femme dans une villa des environs de Metz, on me dit « Dominique, on a besoin de deux HLM parce qu'on est obligé de vendre la maison, ils ne peuvent plus tenir, Dominique, aide-moi. » Et c'est des copains qui sont maires ailleurs qui me les renvoient, tout simplement parce que nous avons les logements sociaux. Et la réalité de ce qu'a dit Mme Saadi est très importante, il y a des tas de gens qui s'en sortent, comme on dit, de ces quartiers. Mais quand ils s'en sortent, ils ne sont plus là. C'est-à-dire que quand ils ont réussi une opération personnelle dans le domaine professionnel, dans le domaine social, par un mariage, par une activité quelconque, ils s'en vont. Et au bout du compte, on a une concentration, un tamisage régulier et lent pour des problématiques urbaines. Je le dirais, ici, c'est souvent moins grave qu'ailleurs, parce que je connais pas mal la situation ailleurs. Et nous avons, je voudrais saluer le travail qui a été fait à Bourny, y compris jadis naguère. Parce que c'est vrai, ce qu'a dit M. Thiel et Mme Zimmermann, il y a eu un travail de fond qui a été fait, il y a eu presque 1000 logements qui ont été détruits, presque 1000 logements qui ont été détruits. C'est très coûteux sur le plan de la population. Quand j'entends des discours, pour ceux qui les font et qui peut-être m'écoutent, hein, j'entends des discours sur les baisses démographiques, eh bien, vous savez, quand vous supprimez 1000 logements, il ne faut pas croire que ça n'a pas de conséquences. Hein. Alors, je voudrais dire, et par-dessus le marché, 5000 militaires derrière, ce que je voudrais dire, c'est que j'assume complètement cette histoire. Parce que nous avons, et singulièrement sur le plan de la sécurité, parce que les policiers nous parlent, eh bien, une situation à Bourny qui est bien plus satisfaisante qu'elle ne l'était auparavant. Je le dis ici avec fierté, et je ne ramène pas la couverture à moi. Je le dis parce que c'est un processus lent et compliqué qui a été plutôt bien mené et qui est porté et qui est supporté par les associations qui sont là, y compris la TTM et le Centre Anatolie, dans leur style et dans leur genre. Parce que M. Thiel a raison. Je suis très sourcilleux sur le fait qu'on ne s'installe pas dans le communautarisme avec des associations destinées à maintenir ad vitam aeternam une différence. Par contre, je pense aux associations passerelles qui permettent de faire le lien entre ce qu'est la France, ce qu'est la République et ce qu'est l'histoire de ces gens qui arrivent. Et donc, nous avons de nouvelles misères. Et allez voir la tour du Haut-de-Vallière, je viens d'y aller. Allez voir le sablon sud. Avec des endroits comme la place du 14 juillet, on n'aurait jamais pensé que. Et puis oui, petit à petit, c'est comme ça. Il y a des difficultés. Et croyez-moi, je suis ça de près, singulièrement dans le domaine, je terminerai là-dessus, dans le domaine de l'alphabétisation et dans le domaine des cours de français, puisque j'ai pratiquement un rapport tous les jours. Hein. Alors, voilà, je peux vous dire une chose. C'est que, oui, tous les jours, je peux vous dire une chose. Ce qu'a dit Mme Zimmermann est très important. Il y a des gens ici qui peuvent arriver à vivre sans jamais parler français. Parce que la télévision parle en langue étrangère, parce que des personnes sont arrivées, quelquefois elles ont été cherchées au bled, comme on dit. Ce n'est pas une expression dédaigneuse, c'est l'expression qui est employée. C'était cherché au bled, marié directement, installé dans l'appartement avec la télé, on ne sort pas de là. Et alors, jamais été à la cathédrale, jamais été ceci, jamais été là, jamais été dans la Grande Roue, jamais été nulle part, dans le 50 ans, on ne sait pas où c'est. Bon, une espèce de dichotomie incroyable par rapport à la vie normal qu'on peut avoir ici à Metz. Et je pense que le travail qui est fait en ce moment par beaucoup de bénévoles, avec la difficulté d'avoir des statuts de bénévoles et des statuts d'employés dans le domaine de l'apprentissage du français, c'est un vrai sujet national. À mon sens, je m'adresse aux deux parlementaires qui sont ici. Ce sujet devrait être mieux pris en compte globalement, parce que nous avons ici à Metz en ce moment un remarquable effort des bénévoles. Et j'en connais plein, parce que je suis de la génération des gens qui ne travaillent plus. Et donc, tous mes amis copains et copines, hein, qui ont un peu de sens commun et de la générosité, font ça. Quelquefois en remplacement, quelquefois en permanence, pratiquement à plein temps ou à des mi-temps solides. Eh bien, ce n'est pas tout à fait normal que ce soit uniquement sur ces bases-là que ça repose. Et donc, nous avons un véritable problème de prise en compte de l'apprentissage du français, parce qu'on intègre d'autant mieux. On intègre par les enfants. Alors, ça marche par les écoles. Et donc, c'est souvent les enfants qui savent. Mais quand vous sacrifiez une génération, eh bien, elle met longtemps à disparaître, cette génération. Elle peut rester 40, 50, 60 ans, comme ça, avec une mauvaise appréciation
du français, une incapacité à s'adresser à quelqu'un dans de bonnes conditions, toujours les mêmes boutiques, toujours les mêmes lieux pour acheter à manger, et c'est tout. Et ça, c'est grave, parce que ça ne participe pas à la fête. Vous savez, la Saint-Nicolas, tout ce qui fait la beauté de la ville, eh bien, il y a plein de choses gratuites. Et en réalité, si on a un minimum de culture commune, on peut participer à beaucoup de choses quand c'est gratuit. Hein, et là, nous ne l'avons pas. Donc, je dirais, d'abord, merci à l'opposition qui travaille bien, parce que quelquefois, je n'ai même pas besoin de répondre. Hein. Quelquefois, je n'ai pas besoin de répondre. Ça, c'est pratique. Hein. Et je salue les interventions de M. Thiel et de Mme Zimmermann, parce que, quelque part, il voit clair. Hein. Je confirme que nous discutons avec l'ANRU, que l'ANRU est indépendante, très compliqué, que l'ANRU est indépendante, qu'il faut qu'on arrive à mettre dans le coup des opérateurs, et singulièrement les bailleurs sociaux, et que l'OJS, je ne fais pas un dessin, c'est compliqué aussi, hein, on est en train de préparer un protocole pour l'été, si tout va bien. Mais moi, j'ai déjà été voir le directeur général de l'ANRU, qui est un Lorrain d'ailleurs, et croyez-moi, ce n'est pas dans les tiroirs que ça se trouve. Je le dis encore pour le spécialiste de la passerelle, là. Ce n'est pas dans les tiroirs que ça se trouve. C'est dans le travail. Hein. C'est dans le travail. C'est dans les projets bien construits. Et l'ANRU est très critique en permanence. L'ANRU exige tout le temps des grandes études générales sur la ville, sur l'agglo. J'ajoute, et je terminerai là-dessus, que maintenant, cette compétence dont on parle là, c'est une compétence d'agglo. C'est une compétence d'agglo. Et alors, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a M. Grosdidier qui avait deux quartiers politiques de la ville, il n'y en a plus qu'une. Alors on est en train de faire des contorsions pour ne pas lui faire perdre trop d'argent. Parce que sinon, ce serait catastrophique pour son budget parce qu'il a un budget qui est largement reposé là-dessus. Et on a opté pour une politique en sifflet. Ben oui, mais Madame Zimmermann, vous avez raison, mais il faut pratiquer le pardon des offenses. Hein, voilà. Bon, donc on a fait. Vous avez raison, Madame. Je connais. Vous avez tout expliqué tout à l'heure. J'ai rien à dire. Je suis entièrement. Je signe ce que vous avez dit. Et par ailleurs, alors, Monsieur le maire de Voipy. Et moi, nous discutons de ce sujet-là, mais nous discutons sous les auspices de l'agglomération, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand il y a un pauvre qui débarque quelque part, il vient souvent d'ailleurs. Et donc, c'est une problématique d'agglomération que maintenant, l'État nous impose de regarder ensemble. Alors, il y a beaucoup de gens autour que ça n'intéresse pas trop, pour qu'ils considèrent que ce n'est pas leur problème, mais en réalité, c'est le leur aussi, parce qu'on ne peut pas le gérer indépendamment de l'ensemble des acteurs d'un bassin de vie qui est le nôtre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je remercie Mme Saadi pour un travail soigné, approfondi. Je le dis ici avec force parce que c'est un travail qui est ingrat, qui n'est pas tellement visible. On ne peut pas inaugurer facilement une politique de la ville en coupant un ruban. Et il n'y a rien de plus précieux que ça, parce que ça se fait dans la dentelle et dans le détail. Et il faut éviter les gaspillages d'argent, parce que c'est vite fait aussi. On a connu des endroits. D'ailleurs, je terminerai sur un point par rapport au communautarisme, M. Thiel, Mme Zimmermann. Je peux vous dire une chose. Quelquefois, il y a des belles institutions qui ne sont pas marquées à TTM ou à Anatolie et qui pratiquent le communautarisme autrement plus efficacement sous la rubrique « Moi, je suis un généraliste » et en réalité, j'ai vu des choses parfaitement inacceptables dans certains centres sociaux à Metz, parfaitement inacceptables, qui se pratiquaient sous la rubrique « C'est un centre social, il n'y a rien à dire voilà. ». Oui. Alors, on va voter en faisant un vote spécial pour Anatolie. Vous avez dit quoi, Anatolie, SOS Racisme et également la TTM, ça vous plaît aussi? La TTM aussi. Alors, explication de vote. Bien. Explication de vote de Madame Migaud
oui,
et du général Petit.
Je voudrais juste dire un petit quelque chose à propos de la politique de la ville. Je l'ai évoqué déjà en commission l'autre jour. J'habite, moi, dans un quartier politique de la ville, mais je ne fais pas partie, on va dire, des personnes en difficulté. Classe moyenne, quoi. Mais j'aimerais bien, à l'intérieur de ce quartier, pouvoir partager des choses avec les gens du quartier, mais sans être dans un sentiment de supériorité, partager les mêmes activités. Et j'ai beaucoup de mal à faire ça, parce que dans les centres sociaux, souvent, les activités que je pourrais partager, c'est en journée. Or, les gens comme moi, on travaille, on gagne notre vie normalement, et le soir, il n'y a plus rien qui se passe. J'ai vécu une expérience assez extraordinaire cette année. J'avais repéré que sur le centre social de Bellecroix, il y avait une activité gym douce pour les femmes. Donc, je me suis inscrite. Eh bien, j'étais la seule. Donc, pendant 3-4 séances, j'étais toute seule avec l'animatrice, alors que pour moi, ça aurait été l'occasion de pouvoir faire des choses avec d'autres femmes du quartier. Donc, bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché, il faudra certainement tenter autre chose. Une des belles expériences qui se fait à Bellecroix, c'est la fête de la soupe. C'est à peu près la seule chose qui existe où on peut se rencontrer entre catégories sociales, on va dire, différentes, mais sans qu'il y ait « moi, je suis supérieure à toi », etc. Et ça, je crois que c'est... Parce que tout à l'heure, Célima parlait du peuplement, et c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir tisser... Tout le monde dans ces quartiers n'est pas du ressort de la politique de la ville. Il y a des gens, on va dire, ordinaires qui y habitent et qui n'ont pas forcément envie de rester entre eux aussi, qui sont prêts à aller vers les autres, mais sans bénévolat, simplement pour les rencontrer. Et là, il y a quelque chose à creuser, parce que sinon, on se décourage un petit peu quand même. Voilà.
J'en conclue que votre vote est positif. Oui, général.
Monsieur le maire, pour apporter une information à tous mes collègues, en particulier à Monsieur Aldrin, concernant les événements de 2015 et la mobilisation qui sera la nôtre, justement ici à Metz. Cette mobilisation se fera autour de la solidarité, telle qu'elle se manifeste par le secourisme et les gestes qui sauvent. Il sera organisé une grande journée de secourisme dans les prochaines semaines avec tous les acteurs concernés, protection civile, SAMU, Croix-Rouge, Croix-Blanche, pompiers, Croix de Malte. Elle sera largement ouverte au public et aux scolaires. Ils se permettront une initiation à ces gestes et susciter le désir de se former au secourisme et de s'engager dans les acteurs du secours afin d'apprendre d'abord à l'ensemble de ces associations à travailler ensemble et à se préparer éventuellement à ce qui peut être aussi pour nous un des objectifs des terroristes. Je vous remercie. Et mon vote est positif.
Merci, mon général. Merci. Sur ATTM, on va vous faire un vote spécial. ATTM, Centre Anatolie et SOS Racisme. Alors, qui est pour financer l'ATTM, le Centre Anatolie et SOS Racisme? Levez la main. Qui est contre? Alors, 1, 2, 3... 4 contre. Voilà. Et maintenant, pour le reste, y a-t-il des oppositions? Une opposition? Vous la tenez pour Bellecroix?
Oui, je suis pour.
Bien
pour
sûr,
pour
madame. Oui. Alors, madame Arnold est absente. Est absente pour l'instant du vote pour Bellecroix. D'autres manifestations? Eh bien, écoutez, c'est l'unanimité. Je vous remercie.